Santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Salut à tous! Au programme d'Enjeux de Santé cette semaine, on revient sur la journée mondiale de lutte contre le sida en se posant la question suivante. Quels peuvent être les moyens de prévention adéquats face au sida dans un contexte où la maladie n'engendre plus les peurs collectives qui ont traversé les années 80 et 90? Pour en discuter et saisir les différentes tensions qui traversent aujourd'hui cette thématique, je suis allé à la rencontre du docteur Gilbert Boujaoudé, médecin et sexologue spécialiste de la sexualité des personnes atteintes du VIH. J'ai aussi rencontré Myriam Bess, chargée de mission pour le collectif rennais de lutte contre le sida, qui m'a invité à une expérimentation mise en place à l'occasion de la journée mondiale, les lectures érotico-décalées. Au dire de l'Organisation des Nations Unies, nous en aurions bientôt fini avec le sida. C'est du moins l'idée qu'elle essaye de défendre depuis 2011. Chaque année, l'ONU rend son rapport sur la situation internationale, et depuis 2011, elle envisage la fin du sida comme un horizon légitime à l'aune des 30 prochaines années. On sait qu'au courant des années 80 et 90, les artistes, chercheurs, militants et pouvoirs publics étaient profondément désarçonnés face à l'apparition de la maladie dont on ne comprenait finalement pas grand-chose. Les premières connaissances produites au sujet du sida visant à accompagner les campagnes de prévention consistaient principalement à identifier des populations à risque. Personnes homosexuelles, hémophiles, haïtiens, héroïnomanes et populations subsahariennes étaient considérées comme les plus exposées. Afin d'éviter toute stigmatisation et sous la pression des associations de lutte contre le sida, l'épidémiologie a cessé à la fin des années 80 de parler de groupes à risque pour préférer la notion de comportements à risque. L'introduction de cette notion a permis de voir éclore des recherches de plus en plus nombreuses sur la sexualité. Les pratiques de prévention vis-à-vis du sida ont considérablement évolué à mesure que nos connaissances se sont affinées et surtout que les traitements ont évolué. Aujourd'hui, elles oscillent entre différents types de discours. Certaines campagnes continuent de jouer la carte de la peur, alors que d'autres préfèrent l'humour. Il paraît de plus en plus difficile aujourd'hui de diffuser un message qui fasse véritablement écho à la diversité de nos expériences affectives et sexuelles. L'optimisme du rapport de l'ONU ne facilite pas les choses. On en parle avec le docteur Gilbert Boujaoudé.
L'ONU, il dit l'épidémie est stable et régresse même. Et je me mets à la place du grand public qui dit mais donc on y arrive, ça marche, les traitements. Et pourquoi on nous rabâche encore l'idée qu'il faut éviter les comportements sexuels à risque? Pourquoi on ne peut pas revenir à une sexualité un peu libre de toutes ces contraintes? Ce décalage vient du fait que quand on dit que l'épidémie est stable ou régresse, c'est une fois de plus une excellente nouvelle, mais ça reste une épidémie énorme.
Ça touche 35 millions de personnes, je crois, environ aujourd'hui.
C'est énorme. Ouais. C'est énorme. J'ai souvent dit, attention, ces messages optimistes et ces progrès qu'on est en train de faire risquent de donner cette mauvaise information que c'est fini. En fait, c'est pas fini, c'est en cours d'être fini. Et je dirais même, c'est parce qu'on est en train d'y arriver que c'est pas le moment de lâcher. Donc c'est pas quand on commence à y arriver qu'on relâche, c'est quand on y arrive.
Bien sûr.
Il y a aussi une deuxième remarque, c'est quand l'ONU sort des chiffres, il met un peu dans le même sac parfois les chiffres de transmission de la mère à l'enfant, lors d'une grossesse par exemple.
D'accord, oui.
Et effectivement, là-dessus, c'est les comportements sexuels à risque, ils ne rentrent pas en compte. Et ça a nettement diminué grâce au progrès thérapeutique. Il prend aussi en compte les chiffres des États-Unis, de l'Australie, de l'Afrique, de l'Europe, et donc il va falloir regarder pratiquement pays par pays ce qui est en train de se passer. C'est pas l'information qui est pas juste, c'est l'explication de cette information qui manque un tout petit peu de
pédagogie.
De pédagogie. Et surtout, qui ne doit plus être dans le côté stigmatisant. D'ailleurs, une des questions que je pose, c'est comment de nos jours faire de la prévention sans tomber dans le jugement. Malheureusement, la science de l'infectiologie, la science du VIH et l'homosexualité sont partis du pied gauche. Parce
D'accord,
que d'emblée, et je redis, il n'y a pas une maladie au monde où on la définit selon l'orientation sexuelle de la personne qui l'a. Vous ne trouverez jamais le diabète, on s'en fout de l'orientation sexuelle du patient qui l'a. La sclérose en plaques, le cancer, etc. Il n'y a que le VIH. Dans le contexte de l'époque, ça paraissait logique puisqu'on découvrait cette maladie chez les homosexuels essentiellement. Il a fallu des années pour comprendre que c'est sexuellement transmissible, c'est pas dû à l'orientation sexuelle. Mais c'était trop tard, c'était déjà stigmatisé et jusqu'à aujourd'hui, ça reste stigmatisé comme ça. Et je dirais que ça reste stigmatisé et chez les personnes et chez les médecins. D'où la difficulté, par exemple, quand les médecins aujourd'hui disent « oui, on a des médicaments efficaces, mais il faut quand même mettre le préservatif ». Et ils insistent parce que les statistiques leur disent Si surtout vous êtes homosexuel et que vous avez des rapports sexuels avec plusieurs personnes, surtout vous, vous mettez le préservatif, bah, le mec qui est dans cette situation, il va dire bah, pourquoi on me vise moi ? Je sais que d'une façon logique, par exemple, les statisticiens, ils vont dire bah, puisque c'est surtout dans ces endroits-là ou dans ces milieux-là ou dans cette orientation sexuelle qu'il y a le plus de risques, eh bien, on va surtout cibler cette population-là. Oui. Mais en réalité, c'est une erreur, à mon sens, de le faire, puisqu'il faut viser les comportements sexuels, pas les comportements et l'orientation sexuelle.
Oui, bien sûr.
Un hétérosexuel peut avoir des comportements sexuels beaucoup plus à risque qu'un homosexuel. C'est que si on fait nos messages de prévention basés sur les statistiques et sur la science uniquement, je pense que ça ne passe plus. C'est-à-dire, fin des années 80, par exemple, à un moment... Il a fallu que tout le monde mette de côté le combat des associations, le combat des médecins, etc. Fin des années 80, les personnes qui avaient le VIH mouraient, et mouraient, c'était l'hécatombe. Là, il ne fallait pas trop réfléchir, tout le monde met la capote, etc. Et puis, homosexuel, pas homosexuel, il faut réagir, c'était vraiment un drame. À cette époque-là, fin des années 80, début des années 90, je dirais cette question d'orientation sexuelle, même si ça gênait beaucoup de personnes, à un moment, il fallait faire quelque chose, mettre le préservatif. Tout le monde dit, elle est dans le même sens, attention, il y a un gros risque. Depuis que la maladie est devenue, entre guillemets, moins grave, c'est-à-dire elle est devenue une maladie chronique avec les médicaments, par exemple, depuis fin des années 90, début des années 2000, on sait que quelqu'un qui a le VIH, il a la même durée de vie que quelqu'un qui n'a pas le VIH, s'il est dépisté à temps et soigné correctement, par exemple.
D'accord.
Et depuis ce moment-là, le côté stigmatisant, il est revenu à l'ordre du jour en disant « Mais pourquoi vous dites surtout aux homosexuels de mettre le préservatif ?» Pourquoi vous ciblez ? D'ailleurs, regardez les campagnes de prévention. À un moment, on avait l'impression qu'il n'y avait que les homosexuels qui étaient concernés.
Oui, voilà. Oui, bien sûr. Oui.
Il y a quelque chose qui pouvait paraître presque choquant. Par exemple, les personnes de plus de 50 ans étaient rarement ciblées dans les campagnes de prévention, comme s'ils n'avaient pas de sexualité. Alors qu'on sait que chez les personnes de plus de 50 ans, le taux d'infection par le VIH a augmenté de 10-20% ces 10 dernières années. C'est-à-dire, ça continue à augmenter dans cette population. Je dis tout ça, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème dans les comportements sexuels.
On est bien d'accord, oui, on est bien d'accord.
Je suis en train de dire qu'il faut que le message soit rectifié et soit ciblé non pas vers l'orientation sexuelle, mais vers l'explication du comportement sexuel. Par exemple, il y a des questions qui sortent habituellement et que j'ai posées. Puisqu'on nous dit que les traitements sont efficaces. On a appris dans des études, là je me mets à la place du grand public, j'ai appris dans des études que le patient qui a le VIH, qui est soigné, en fait, il ne transmet plus le VIH. Puisqu'il y a des études, en tout cas, qui ont été rapportées comme ça. Bah, puisque le patient qui a le VIH ne transmet plus le VIH, pourquoi je dois mettre encore des capotes ? Et pourquoi se protéger, puisqu'il n'y a plus de transmission ? Et c'est là où le message de prévention doit être important. Puisque c'est différent de dire le patient qui a le VIH ne transmet plus, que de dire, dans certains cas bien précis, les patients qui ont le VIH, grâce à certains traitements et dans des conditions bien précises de prise de sang, de suivi, etc., bah dans certains cas, on peut effectivement se passer du préservatif. Sauf que quand je suis quelqu'un qui est séronégatif, qui est séroinconnu, je ne suis pas VIH et je rencontre une personne, je n'ai aucune idée de dans
bien
quelle
sûr,
situation elle est.
Bien sûr.
Quels sont les résultats de sa prise de sang ? Est-ce qu'il prend son traitement régulièrement ? Est-ce qu'il est VIH ? Est-ce qu'il n'est pas VIH ? Donc, à part la situation où chaque personne que je rencontre, je vais lui demander son dossier médical et je vais dire, bon, bah, pas de problème, je peux ne pas mettre la capote même s'il y a le VIH, bah, il faut mettre la capote quand même. Et c'est là où je dis qu'il y a un décalage, c'est-à-dire les informations qui arrivent dans le grand public sont rassurantes et c'est génial que ça soit rassurant quand même quand on regarde
l'évolution du
VIH. C'est extraordinaire que ça s'améliore comme ça, mais attention, c'est rassurant, mais dans des conditions bien précises, malheureusement, le milieu médical n'a pas réussi à communiquer à temps là-dessus. Un exemple simple, quand le milieu grand public apprend que dans certains cas le VIH ne se transmet pas, c'est l'information qui peut circuler, et que en même temps le corps médical il dit attention, il faut continuer à mettre le préservatif.
Oui.
Tu vas dire mais pourquoi il nous oblige à mettre le préservatif ? Est-ce que c'est une stigmatisation de plus ? Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne communication pour dire non, c'est pas une stigmatisation, c'est parce que dans certains cas bien précis, je peux vous dire si vous en tant que personnellement, dans ce mode de vie que vous avez actuellement, est-ce que vous pouvez ou pas mettre le préservatif ? Ou est-ce que vous devez le mettre ? Mais on ne peut pas donner une sorte de passeport à tout le monde comme ça. En tout cas, pas de nos jours. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais de nos jours. Ouais.
Parmi les questions que se pose le docteur Boujaoudé dans sa pratique, une est essentielle à nos yeux. Qu'est-ce qu'un comportement à risque et comment ne pas tomber dans une moralisation des pratiques sexuelles des personnes ? L'accent mis sur le préservatif est-il satisfaisant aujourd'hui, notamment lorsqu'on apprend qu'un tiers des étudiants ne portent pas de préservatif lors de rapports sexuels ? Est-ce que prévenir le risque de la transmission du VIH se résume au port de la capote ?
Quand on parle de comportement sexuel à risque, en pratique, on parle que du préservatif. Dire simplement qu'il faut mettre le préservatif parce qu'il y a le VIH, on a l'impression que ça a 20 ans ce truc. Mais en théorie, c'est toutes les pratiques où le VIH peut se transmettre. Sauf que c'est impossible à étudier toutes les autres pratiques. On ne peut étudier que le préservatif. Par exemple, quelqu'un qui met le préservatif, mais avec le même préservatif, il pénètre deux personnes dans la même soirée, par exemple. Mais lui, il n'y a pas de problème, mais il peut transmettre le virus de l'un à l'autre. C'est impossible à mesurer, c'est impossible à étudier. Quelqu'un qui utilise des sextoys, ou des personnes qui utilisent des sextoys, qui ne les nettoie pas, qui réutilise avec une autre personne, etc.
Ça, les données épidémiologiques, elles ne peuvent pas...
C'est impossible. On ne peut pas. Ce qui veut dire qu'il faut distinguer comportement sexuel anormal et comportement sexuel à risque de VIH. Quand on dit à une personne « mais votre comportement sexuel, il est à risque », si on sous-entend à cette personne que son comportement sexuel est anormal, il va mal le prendre.
Bien sûr.
Lui, il ne se sent pas anormal. Par contre, si on lui dit « mais non, votre comportement sexuel, il n'y a pas de problème ». Par contre, vis-à-vis de la sexualité, ça tout va bien. Par contre, vis-à-vis du VIH, il y a un problème, il faut qu'on discute. Ça commence déjà à être différent. Tout d'un coup, on ne parle plus de l'orientation sexuelle de la personne, mais du risque du VIH. Et c'est là où je disais comment faire de la prévention sans porter un jugement, en ne parlant pas de la sexualité, en parlant du VIH. La sexualité, il en fait ce qu'il veut. C'est pas à nous de dire si c'est bien ou pas de coucher avec 3-4 personnes le même soir, ou si c'est bien ou pas d'avoir une relation toutes les 4 semaines. Mais c'est important de préciser que voilà, quand on parle de comportement sexuel à risque, il n'y a pas que l'histoire du préservatif. D'où l'intérêt, quand on discute avec un médecin, que ce médecin puisse discuter d'autres choses que le préservatif aussi. Ce qui veut dire que les médecins soient formés là-dessus, ce qui est malheureusement pas encore complètement le cas. Ça reste difficile et pour le patient et pour le médecin, parce qu'il y a un manque de formation.
Plutôt que d'aborder les comportements par le risque, en fait, parler des risques, mais après avoir parlé de plaisir d'abord. Est-ce que c'est aussi un moyen de prévention que de commencer par dire les comportements sexuels avant d'être à risque, c'est des comportements aussi qui procurent du plaisir.
En fait, ce que vous dites est vrai. Malheureusement, le monde médical n'est pas formé à parler de la sexualité. Ça, il faut le savoir.
Oui.
On reproche beaucoup aux médecins de mal parler de ce sujet-là. Il faut quand même se souvenir qu'un médecin généraliste, par exemple, sur 9 ans d'études, il a 2 heures de cours sur la sexualité. Un médecin d'autres spécialités, il n'a pas forcément des formations sur la sexualité. Il s'est formé un peu. Et donc, il en sait ce que tout le monde en sait, ou ce que les patients disent. Donc, et ils ne sont pas forcément formés pour en parler. Comment je l'aborde ? Et ça fait presque 4-5 ans qu'on fait des réunions avec des médecins et on est nombreux à faire des réunions de plusieurs sexologues pour dire aux médecins comment on parle de ce sujet-là, à quel moment on en parle, par quel biais on l'aborde, pourquoi avec telle personne on va l'aborder sous cet angle-là. Et les médecins qui se forment finissent par effectivement aborder le sujet de la sexualité. Je dirais, l'idéal pour moi, c'est de l'aborder ni sous la forme du plaisir, ni sous la forme du risque, mais sous la forme de quelque chose de banal, de normal. Et puis, on en parle pour voir est-ce qu'il y a un problème ou pas. C'est là où il y a la difficulté. Il faut repérer les comportements. Ils sont le reflet d'un problème. Par exemple, quelqu'un qui dit « je suis bien conscient de tout ça », mais voilà, j'ai l'impression de prendre un risque calculé et puis j'y vais. Il a l'information, c'est sa personnalité, c'est sa façon de faire. Voilà, on est dans quelque chose qui va être plus difficile à modifier, sauf par des informations objectives, en disant « mais pourquoi vous pensez que votre risque est calculé ?» Parce que je sais ça, ça, ça. Ah, attention, cette information que vous avez n'est pas très bonne.
D'accord.
Cette information-là, elle est rectifiée. Donc ça passe par beaucoup de discussions. Par contre, il y a des comportements, par exemple, qui peuvent être le reflet... sur le plan sexuel, il y a des addictions, par exemple, des dépendances au sexe.
Oui.
Et là, vous pouvez donner toutes les informations du monde. Quand dans la tête, on est dans une sorte de pulsion où le cerveau s'arrête de fonctionner et on est uniquement dans le besoin immédiat, il y aura le comportement sexuel qui peut être à risque ou pas à risque, ça dépendra de ce qui va venir. Et c'est surtout c'est ce genre de situations qui font peur, en fait, aux médecins. Et avec un peu de formation, on peut repérer est-ce que cette personne se comporte de cette façon parce qu'elle a un problème de ce type, où elle se comporte de cette façon parce qu'elle pense que ça va aller quand même, quoi. Par exemple, il y a des études qui ont montré que les filles adolescentes qui dans les questionnaires s'estiment pas jolies ou s'estiment grosses, je ne dis pas qu'elles le sont, hein. C'est elles qui pensent qu'elles sont pas jolies et qu'elles sont grosses. Aux États-Unis, il y a une enquête qui a montré que les filles qui cochent ces cases-là ne demandent quasiment jamais le préservatif à un mec qui veut faire l'amour avec elle. Et quand on leur demande pourquoi, elles disent déjà, j'ai l'impression que j'ai déjà de la chance qu'un mec s'intéresse à moi. En plus, je dois l'emmerder avec la capote si je dois le perdre. Et donc, c'est ce genre de situation qu'on doit repérer pour dire attention, cette personne a un comportement sexuel entre guillemets à risque. Ça reflète un mal-être.
Envisagé comme un symptôme, en fait.
Voilà. C'est quelque chose qui reflète un mal-être. Et donc, dans les consultations, quand une personne a pris un risque une fois, deux fois, trois fois, on essaye de voir est-ce qu'il y a un problème de ce genre-là, par exemple. Si finalement on ne trouve rien, c'est qu'il y a de l'information à donner. Je dis à tous mes collègues, on n'est plus à l'ère du temps où il faut donner des informations. On est dans l'ère du temps où il faut corriger des informations. Tout le monde a Internet, tout le monde va avoir des informations. Et l'objectif du médecin, c'est de donner les informations claires, précises. Pas celles qui a été vues sur un site, puis on ne sait pas trop si elle est précise ou pas précise. Ça demande beaucoup de temps. C'est une maladie qui reste sexuellement transmissible. Et donc le fait d'être avec le virus, ça nous oblige à vie à réfléchir à notre sexualité. Par exemple, ce truc-là, il est rarement dit dans les messages de prévention. On parle de la santé. De nos jours, ça fait plus trop peur, l'histoire de la santé avec le VIH. Malheureusement, parce que tout le monde ne s'en sort pas quand même aussi bien qu'on le dit.
Oui, oui.
Il y a quand même des situations difficiles. Mais ce qui peut plus faire peur, c'est d'entendre les personnes qui vivent avec le VIH qui disent « Ah oui, par rapport à avant, quand même, il y a un changement énorme. » Mais quand on annonce... Moi, j'ai entendu des personnes qui me disent « Mais j'aurais préféré qu'on me dise « J'ai un cancer, pas le VIH. » Et quand on leur demande pourquoi, ben, le cancer, on le plaint au moins. Moi, on m'évite.
Ouais.
Moi, on me dit « Tu l'as cherché. » C'est pas non plus quelque chose qui est si sympa que ça, quoi. Hein. Et c'est pas non plus qui est devenu banal. C'est pas une angine. Hein. Et ça, ce que je suis en train de raconter là, malheureusement, on ne l'entend pas vraiment à cause de ces messages de prévention qui tournent autour des statistiques. Et du coup, on va viser une communauté hétérosexuelle, ou pardon, une communauté, une orientation sexuelle. Et du coup, le message, il va être dilué dans quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, entre politique, orientation sexuelle, stigmatisation. Et on oublie tout ce que je suis en train de raconter. On n'arrive plus à en parler parce qu'on a visé le côté orientation sexuelle.
Bon, on dit que le sida, c'est un peu banalisé, un peu dans les consciences, c'est-à-dire que c'est rentré aussi dans un imaginaire collectif. Est-ce que ça ne fait pas aussi un peu de l'ombre à la diffusion peut-être d'autres infections sexuellement transmissibles, ou ça en
absolument,
est sur les IST? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont peut-être un peu plus alarmants?
En fait, c'est comme ça qu'on a remarqué qu'il y a un relâchement sur les comportements sexuels dits à risque et le préservatif. Ça ne s'est pas vu sur les chiffres, puisque vous le dites, année après année, on nous dit les chiffres du VIH diminuent.
Ouais, ouais.
Par contre, en parallèle, les chiffres des autres IST ont explosé, ce qui montre bien qu'il n'y a pas le préservatif. Par exemple, si on voit aux États-Unis, avant les années 2000, après les années 2000, il y a deux fois plus de syphilis déclarée qu'avant les années 2000. En France, la syphilis avait disparu.
Hein. Oui,
il n'y
avait
même plus de déclaration obligatoire. Et puis, boum, tout d'un coup, ça
s'est réapparu.
Et ça reste très élevé. Alors, je sais que beaucoup de personnes, y compris des médecins, hein, d'ailleurs, pour ne pas se le cacher, disent bon, « Syphilis, c'est une infection, une petite piqûre dans les fesses de pénicilline, et puis ça va mieux. » quoi. Ça reste quand même un microbe et un antibiotique qu'on s'est mis dans le corps. Hein. C'est à l'ère où on nous dit oh, attention, vous êtes sûr là, le cachet que vous me donnez, vous êtes sûr qu'il a été bien étudié? Comment on peut dire, oh, c'est rien, c'est une piqûre dans les fesses? Non, ça reste une maladie, ça reste un risque qu'on peut prendre. Les autres IST paraissaient en tout cas, comment dire ça, profiter des efforts faits pour le VIH pour aller mieux, et malheureusement le relâchement sur le préservatif et les comportements à risque de VIH ont fait réexploser les autres IST. Moins sur le VIH, parce que l'effort était fait sur le VIH.
Ces questions peuvent sembler éloignées des préoccupations quotidiennes de la population et des acteurs de la santé au niveau local. Pourtant, les réflexions portant sur les enjeux de prévention du sida rencontrent un certain écho au niveau local. À Rennes, le collectif rennais de lutte contre le sida a expérimenté un dispositif un peu particulier, les lectures érotico-décalées, que Myriam Bess, chargée de mission pour le collectif, nous a présenté.
Alors c'est un travail qu'on a fait avec des comédiennes, donc qui sont des comédiennes de la compagnie des Becs-Verseurs. Nous, on travaille depuis quelques années, on essaye de réfléchir comment on pourrait allier la notion de plaisir et de prévention. Puisqu'effectivement, on aborde souvent la sexualité par l'angle du risque, on avait aussi envie d'essayer de changer un petit peu ça, de travailler plus sur la notion du plaisir. Donc on travaille depuis un certain nombre d'années avec les Becs-Verseurs sur d'autres projets. Donc là, voilà, on a travaillé avec elles sur comment, effectivement, on pourrait essayer de mettre ça en place une petite formule sympa qu'on pourrait passer dans les bars, puisque aussi aller à la rencontre des gens, bah, c'est important. Donc on en est arrivé à des lectures érotico-décalées.
Myriam Bess m'a ainsi donné rendez-vous au bar Le Papier Timbré pour voir et écouter deux comédiennes de la compagnie des Beckverseurs. L'objectif que s'était fixé le collectif a été pleinement rempli. Si l'on préfère bien souvent la chose que les mots sur la chose, le choix des mots sur la chose semble parfois procurer autant de plaisir que la chose. Levier de vitesse.
Lanterne.
Mandrin.
Minou.
Nœud.
Nénuphar.
Organe.
Ouverture de la Traviata.
Piche.
Porte cochère.
Quéquette.
Quai.
Radis.
Ratoire.
Saucisse.
Salle des fêtes.
Ça va bien,
c'est salle des fêtes.
Saucisse, c'est salle des fêtes. Tric.
Tarte au poil.
Ustensile.
Urne.
Vie.
Verger de cypris.
Willy.
Watchable.
Watchable.
Ah, c'est québécois.
Xiphoïde.
X. J'ai rendez-vous avec X.
Yuka.
Yoni.
Zob.
Zézette.
Osons, ne restons pas inertes. Quand le monde court à sa perte, il n'est pas de plaisir superflu. En été, en automne, en hiver, au printemps, entrons si la porte est ouverte. Quand le monde court à sa perte, il n'est pas de plaisir superflu. Ève a goûté, sucé, mordu le succulent fruit défendu. Et le bonheur vaut la réprimande. Ulysse n'est pas revenu. Et Pénélope n'en peut plus. Vite, un homme pour la gourmande. Elle est si bonne, l'eau, Jésus. Quelle idée de marcher dessus. Viens baigner, rejoins la bande. Jeanne, et pucelle à son insu. Elle a tout donné, rien reçu. Du bûcher qu'on la redescende. Tant d'espérances sans issue, de bévues, de malentendus, affectent mythes et légendes. Joignons le flux et le reflux. Vice et versa, vice et vertu, relions l'offre à la demande. Profitons de l'instant, saisissons le présent, osons, ne restons pas inertes. Quand le monde court à sa perte, il n'est pas de plaisir superflu. En été, en automne, en hiver, au printemps, entrons. Si la porte est ouverte, quand le monde court à sa perte, il n'est pas de plaisir superflu.
Le con. française, avec loisir, est le mot con. Le con. Ton con. Montre-moi ton con, Germaine. Dégage-le bien avec tes doigts. Écarte-le, ton con. Les grandes lèvres, les petites lèvres, tes lèvres, ton baiser, ton con, le seul, un con, un con. Et les mots et les images se dégradent, avec le temps et l'habitude. C'est une question d'innocence retrouvée. Et si le terme innocence vous incline à ricaner, sachez que je vous emmerde. Bon, encore faut-il avoir envie de réanimer le pouvoir primitif et magique des mots. Con. Provoque toujours chez moi le même choc dès que je parviens à l'entendre hors de son contexte. Le con. Je m'en pourlèche. Le con de Germaine, de Marie, de Vanessa, de Yaël. À chacune le sien, avec son parfum. Son galbe, son sel et sa dentelle. Je suis natif de Lucrèce et grand amateur de la fesse. Pour le con, je n'ai point de vie. Je n'ai de vie que pour la nuit. Loin des putains dans une allée, étendue dessus la feuillée, tandis qu'ailleurs, on fout en con, moi j'encule mon beau mignon. Sans crainte de la chaude pisse, des poulains, et de la jaunisse, quand j'ai besoin de décharger, je me passe bien d'en conner. À l'extrémité de l'épine d'un beau garçon, je fous ma pine. Et me grattant les deux couillons, mon foutre sort à gros bouillon. Bougre, en même temps et rivette, le ci-devant marquis Villette, pour les femmes et pour le con, sans la plus vive aversion. Sans être natif de Sodome, à la femme, il préfère l'homme. Quand il est neuf et jeune surtout. Pourquoi pas, chacun a son goût.
Viens là. Toi. Oui, toi. Viens. Viens voir. Viens voir là. Là. Viens voir là. Là. Viens voir là, toi. Oui, toi là. Viens là. Viens voir là.
Pino du lotus.
Oui, viens là.
La levrette.
Viens là.
La position du missionnaire. La petite cuillère.
Viens voir là, toi, toi.
Les vignes enlacées.
Toi, oui, toi là.
Les crins bijoux.
Toi, viens là. Viens voir là, toi.
La secrète.
Oui, toi, viens là.
La chaise
viens
longue.
Là, 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 toi.
Le lotus renversé, le moulin à vent, le vol des mouettes, l'herboriste, l'arc-en-ciel, l'étreinte du panda, la brouette, la chaise à bascule, l'aurore boréale, la langue de chat, le 69, la broche du tigre, les chimpanzés, la balançoire en fête, la berceuse, la curvue, le charmeur du serpent, le cheval dans l'anneau, le phénix dans la joie, le filon, les rameurs, la brouette thaïlandaise, le collier de Vénus, la bête à deux têtes, la tigresse, le petit pont, la brouette thaïlandaise, la tigresse, l'approche du panda, la chaise à bascule.
Vous étiez dans Enjeux de santé, le magazine Info Santé de Radio Campus Rennes. Pour ceux d'entre vous qui se poseraient des questions, quelques petits rappels. Le dépistage du sida et des infections sexuellement transmissibles est anonyme et gratuit. Vous pouvez vous faire dépister dans les centres de dépistage prévus à cet effet, au planning familial, dans les centres de planification, au centre d'examen de santé pour votre visite annuelle chez le médecin, ainsi que chez votre médecin traitant. Sachez que de nouveaux outils vous permettent d'obtenir des résultats en moins de 30 minutes. La fois prochaine, nous reviendrons sur l'une des manifestations pour l'élimination des violences faites aux femmes qui se sont tenues du 25 novembre au 2 décembre à Rennes. L'émission abordera les conséquences sur la santé des violences faites aux femmes grâce à une collaboration avec l'association rennaise Question d'égalité. Pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur www.questiondegalitetoutattaché.org.